Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur votre radio locale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire, 369e numéro aujourd'hui et dernier numéro de l'année 2018, au cours duquel nous allons, avec notre invité, revenir sur les événements des 27, 28 et 29 juillet 1830, c'est-à-dire que nous sommes à la période des Trois Glorieuses sous le règne, la fin du règne de Charles X, c'est-à-dire au moment de la Restauration. Ce roman a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Il s'agit de L'été des Quatre Rois, disponible en librairie aux éditions Plon. Et notre invité est Camille Pascal. Camille Pascal, qui est haut fonctionnaire, il est membre du Conseil d'État, il est romancier et essayiste, et après avoir occupé le poste de secrétaire général et de directeur de la communication du groupe France Télévisions, il a été conseiller du président Nicolas Sarkozy entre 2011 et 2012. Il a aussi collaboré de 2013 à 2016 à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. C'est donc avec lui que nous allons passer cette heure sur Radion, L'été des Quatre Rois, roman de Camille Pascal, notre invité que l'on découvre dans quelques minutes après une première pause musicale à bord de ce 369e numéro de Wagon Livre. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Qui redessine.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Camille Pascal, bonjour.
Bonjour à vos auditeurs.
Camille Pascal, j'ai le plaisir d'avoir devant moi le lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française. Félicitations et respect.
Bah, écoutez, c'est un... Comment vous dire, ça a été une immense surprise.
Sincèrement, une immense surprise.
Ah oui, oui.
La concurrence était forte.
Bah, la concurrence était forte. Il y avait des auteurs. D'ailleurs, je crois qu'il y avait le lauréat de l'Interallié, hein, Reverdy, pour l'été des mécontentements, l'hiver des mécontentements, puisque l'été c'est moi. Et puis Mabankou, qui est aussi un auteur connu et respecté.
Mabankou, oui.
Donc, et puis vous savez, l'élection du Grand Prix du roman de l'Académie, c'est une élection très particulière parce que le jury change de composition en cours, ce que personne ne sait. Chacun sait qu'il y a le jury du Goncourt, le jury du Fémina, le jury du Médicis, bon, qui sont une dizaine de personnalités, des lettres, mais vous avez les mêmes au début et à la fin. Et avec l'Académie, c'est extrêmement différent. C'est-à-dire que il y a une commission du roman qui va sélectionner les auteurs et les livres. Et il y a une première sélection, il y a une deuxième sélection qui est donc faite par ces 12 académiciens dans le secret de leur débat. Et ensuite, ils vont présenter leur sélection devant la réunion plénière de l'Académie sous la coupole. Donc, ceux qui étaient devant, dans la commission, ne sont pas nécessairement ceux qui vont arriver. Enfin, c'est extrêmement ouvert, et ce qui en fait à la fois un des prix les plus
prestigieux.
Prestigieux, oui, bien sûr, je vais y revenir, mais les plus compliqués à supputer. Voilà. Alors après, c'est un immense honneur, parce que moi, ce qui m'a frappé tout de suite quand je suis... Quand il a fallu accourir, parce que vous savez, on vous téléphone 10 minutes avant et on vous dit, voilà, si vous pouviez être dans la cour de l'Institut de France dans 10 minutes, ce serait bien. Et devant le grand escalier, l'escalier d'honneur, bon. Et quand, pour la proclamation du prix, parce qu'il va vous intéresser, et donc vous comprenez évidemment que vous êtes le lauréat. Et là, quand on fait les quelques... Moi, j'étais au Palais Royal, hein, je travaille au Palais Royal. Donc, j'ai traversé la Seine à pied. Et là, bon, évidemment, vous avez des images qui viennent. C'est la famille. Vous dites, ma grand-mère serait fière de moi. Enfin bon. Et tout le monde, tous vos auditeurs peuvent le comprendre. Mais surtout, ce qui m'a tout de suite habité, c'est que les académiciens venaient de m'inscrire dans une lignée littéraire. Et ça, je peux vous dire que de penser que vous occupez la place qui a été occupée par Mauriac, par Saint-Exupéry, par La Varande, par Tournier, et j'en oublie, par voilà, et un grand nombre d'auteurs qui Bernanos, bon, bah, ça, comme dirait l'autre, ça fait quelque chose.
En tout cas, je manque à tous mes devoirs parce que je n'ai pas donné le titre de ce roman, donc récompensé par le Grand Prix du roman de l'Académie française. C'est L'été des quatre rois de Camille Pascal aux éditions Plomb. Alors, c'est un roman historique. Vous avez fait très fort parce qu'en 650 pages, vous racontez trois semaines de juillet 1830. Hein. Le roman commence le 25 juillet 1830 avec le lever du roi Charles X, et se termine par son exil, son départ sur un navire qui va le conduire en Grande-Bretagne. Alors, vous revenez sur une période méconnue qui se situe entre notre, alors je sais pas, glorieuse Révolution française de 1789 et une autre révolution, celle de 1848, qui va chasser d'ailleurs...
celui qui avait gagné la première manche.
Louis-Philippe d'ailleurs, que Charles X considérait comme un roi sans gloire.
Voilà.
Est-ce que Charles X était un roi avec gloire? Louis-Philippe n'en avait point.
C'était un roi sacré. C'est le dernier roi sacré à Reims. Ce qui lui donnait une dimension religieuse que Louis-Philippe abandonnera puisqu'il se contentera de prêter serment sur la charte le 9 août 1830. Et d'ailleurs, ses détracteurs parleront d'un sacre protestant. Donc, oui, vous venez de résumer les malheurs de la révolution de 1830. C'est d'être écrasé entre la révolution de 1789... voilà, que l'on présente comme la Révolution française. D'ailleurs, on dit la Révolution française, hein, on ne dit pas la Révolution de 1789, parce que c'est l'aboutissement du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. Et la Révolution de 1848, qui, elle, annonce une autre époque, puisque c'est en 1848 que la question du prolétariat et de la lutte des classes va commencer, va apparaître. Et cette lutte des classes, ces luttes sociales vont occuper toute la deuxième partie du XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle. Donc, la Révolution de 1830, elle apparaît comme une sorte de sous-révolution, de petite révolution, de révolution bourgeoise, qui a simplement changé un roi par un autre.
Alors, il faut quand même préciser que votre roman donc, commence par le réveil du roi Charles X, roi très pieux. Oui. Il y a un retour presque d'une religion d'État.
Il voulait une religion d'État. Il voulait une religion d'État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que... C'est très intéressant d'ailleurs, c'est que... Bon, vous savez, en deux mots, Louis XVI est guillotiné en 93. Son fils meurt au temple, dans des conditions mystérieuses. Enfin, il meurt au temple. Il n'a donc pas d'héritier. Et vont donc lui succéder ses deux frères. Celui qui a été comte de Provence, sous le nom de Louis XVIII, et ensuite le comte d'Artois, puisque le Louis XVIII n'a pas eu d'enfant, le comte d'Artois, sous le nom de Charles X. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà deux hommes qui ont été élevés dans le libertinage de la cour de leur grand-père, le roi Louis XV, dans une sorte d'éloignement vis-à-vis de la religion. Et l'émigration, l'épreuve de la Révolution, va les replonger, notamment Charles X, dans une religion extrêmement sévère, parce qu'ils ont eu le sentiment que la Révolution était en réalité le fléau que Dieu avait envoyé sur la France pour la punir de ses péchés, notamment les péchés de ses rois et de ses princes. Et donc Charles X, qui était un libertin quand il est dans sa jeunesse, va devenir un roi extrêmement bigot, pour ne pas dire dévot.
Alors, il y a Louis XVIII, ensuite on a Charles X. Alors, Louis XVIII était un roi extraordinairement intelligent, en tout cas d'une grande intelligence politique. Or, Charles X n'est pas du tout sur la même lignée que Louis XVIII.
Alors, vous voulez dire, soyons clairs, il était moins intelligent que son frère, je vous le concède.
Est-ce qu'on peut dire que Charles X, raisonnablement, était un imbécile politique ? Parce qu'il a pris toute une série de mesures qui ont provoqué ces journées.
Il est aveuglé, alors c'est pas une lumière, et puis en plus il n'est pas conseillé par un gouvernement très brillant. Hein. C'est ça, c'est tout le problème, c'est qu'il a pris des gens qui lui ressemblaient, et notamment le prince de Polignac, qu'il a choisi comme premier ministre, qui est un ultra, c'est-à-dire les ultra-royalistes, ceux qui veulent effacer en réalité tout ce qui s'est passé en France de 1789 à 1815. Voilà. C'est-à-dire la Révolution, le Directoire, le Consulat et l'Empire.
Pour revenir, quand même. Oui, effacer le souvenir de.
C'est l'impossible
de
retour.
Napoléon, de la Révolution.
C'est l'impossible retour au passé. Mais eux pensent que c'est possible. Et Charles X ne comprend rien et ne voit rien. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de traduire dans le roman, notamment par ce premier chapitre où l'on voit un roi qui se réveille. Il se réveille parce qu'il va prendre une décision lourde de conséquences. C'est la signature de plusieurs ordonnances qui sont là pour faire, rentrer la France et les Français dans leur rang, c'est-à-dire le retour à l'Ancien Régime. Et ce vieux roi, il a 74 ans, se lève et n'y voit rien. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas l'auteur Camille Pascal qui invente ça, il était myope. Non seulement il n'avait pas de sens politique, mais il était myope. Et donc, et coquet, donc il ne portait jamais ses lunettes. Et donc il ne trouve pas ses lunettes, il cherche ses pantoufles. Et la première chose qu'il veut, c'est trouver son prie-Dieu pour, si j'ose dire, offrir à la Sainte Vierge les décisions qu'il va prendre et qui, pour lui, sont le retour, si vous voulez, à la France fille aînée de l'Église. Donc, il est totalement en décalage avec une France voltairienne, bourgeoise, libérale. Totalement en décalage. Mais lui ne le sait pas, il ne le comprend pas. En revanche, lui, il est dans la fidélité à ce qu'il appelait ses vieilles idées. Alors, on peut considérer que d'être attaché à des principes est stupide. En l'occurrence, ça n'a pas été stupide, ça a été une catastrophe. Mais il faut bien comprendre que le roi, lui, considère qu'il va tout remettre à l'endroit alors que tout a été à l'envers. Et vous savez, là où il faut comprendre, et moi j'ai toujours essayé dans ce livre de ne pas juger. Je veux que ce soit le lecteur qui soit le spectateur de ce qui se passe. Et le lecteur, il décidera. Tout ce qui est dit, tout ce qui est fait est historiquement vérifié.
Y compris les répliques, les dialogues.
Il n'y a pas un dialogue que j'ai abordé.
D'ailleurs, votre bibliographie est immense.
Oui, mais, que c'est quand même un roman, parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que la littérature était le seul moyen de donner au lecteur l'effet du réel. Et ça, c'est le plus important, vous savez, c'est que le lecteur ne se sente pas éloigné de l'événement, au contraire, qu'il soit plongé dans l'événement comme dans une marmite, mais en n'en sachant ni plus ni moins que les personnages qu'il regarde vivre.
Camille Pascal, on marque une nouvelle pause musicale à bord de Wagon Livre. Je rappelle que vous êtes le lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française pour L'été des quatre rois, roman historique paru aux éditions Plon. On se retrouve dans une poignée de minutes.
On rêvait d'irréel, de joyaux sous les pierres, de pépites dans le lit des rivières, sous nos crânes de cristal.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retrouvons en cette fin de matinée sur Radio notre invitée Camille Pascal, auteur de L'été des quatre rois, disponible en librairie aux éditions Plon, roman historique qui a obtenu le grand prix du roman de l'Académie française. Alors Camille Pascal, avec ce roman, en 600 pages, vous revenez sur trois glorieuses, 27, 28, 29 juillet 1830, c'est-à-dire la fin du règne de Charles X. Un petit point tout de même, Camille Pascal, sur l'état du Royaume de France en 1830, c'est-à-dire à quoi ressemble la France de ces années-là, 1830.
Vous savez, Charles X, il pense qu'il y a eu des grands signes. Charles X, d'abord, il faut rappeler que la France est redevenue un pays prospère, que la France de 1830, c'est un pays extrêmement prospère, avec un début d'envolée économique et industrielle. Par ailleurs, il vient de réussir une chose là où son ancêtre Saint-Louis avait échoué, c'est que les armées françaises ont réussi à prendre pied de l'autre côté de la Méditerranée et à prendre d'assaut une grande capitale du Maghreb, c'est Alger. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est le début de la colonisation de l'Algérie. Et donc, pour Charles X, si Dieu a permis qu'il fasse mieux que son ancêtre Saint-Louis qui s'était cassé le nez devant Tunis et que lui a pu faire rentrer et faire flotter le drapeau blanc fleur-de-lysée sur la casbah d'Alger, eh bien c'est que Dieu et la Sainte Vierge sont d'accord pour sa politique. Et que donc, maintenant qu'il a obtenu cette victoire, il va pouvoir rendre la France dans ce qu'il appelle la pureté du passé.
Alors, c'est un homme très élégant, avec une certaine beauté par rapport à Louis XVIII, qui était un
peu compliqué,
qui était quand même plutôt en fauteuil roulant.
Alors c'est toute la difficulté, c'est que quand après plus de 20 ans d'absence, les Français ont découvert Louis XVIII, ils ont vu arriver un monsieur obèse dans une voiture roulante qui avait toujours le pied en mitouflé parce qu'il avait la goutte. Et donc Charles X à côté, qui a gardé toute l'élégance de sa jeunesse, qui est un grand sportif, il monte tous les jours, il chasse, il fait de l'exercice, il est extrêmement svelte. Et puis, il a les manières extrêmement raffinées et il a toute l'élégance de la cour de Versailles dans laquelle il a été élevé. Alors, ce qui, évidemment, pour des gens qui ont vu les soudards et les maréchaux de Napoléon se conduire aux Tuileries, apparaît comme le dandy par excellence. Et vous savez, Louis XVIII avait une formule qui était de dire « Vous n'avez pas aimé avoir un roi sans jambes, puisqu'il était... vous verrez ce que c'est que d'avoir un roi sans tête. »
Vous l'avez dit, Charles X donc veut rétablir la France dans sa pureté à travers une monarchie absolue de droit divin.
Exactement.
C'est vraiment le retour à l'ancien régime, que les choses soient très claires.
Et il a été sacré pour ça. Il est allé à Reims, il a été sacré, on l'oublie. Mais pour lui, il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Et donc, il est sacré. Rien dans l'histoire, il ne devait jamais régner. Voilà un homme qui n'aurait jamais dû régner. Il était le troisième, son frère avait eu un fils, il n'aurait jamais dû régner. Il règne, volonté divine. Bon. Il est sacré, volonté divine. Il prend Alger, volonté divine. Donc, pour lui, ceux qui ne comprennent pas le sens de l'histoire, ce sont les parlementaires qui lui font une opposition, ce sont les libéraux, ce sont les bourgeois. Lui, il est dans le sens de l'histoire, mais à sa manière. Simplement, ce sens de l'histoire ne correspond pas à celui du pays.
Alors, presque 20 ans après la Révolution française, comment le roi Charles X est-il perçu par le petit peuple du royaume de France
Au départ, il faut quand même rappeler que les Bourbons ont été accueillis avec bienveillance, parce que leur retour, c'était la paix. Il ne faut pas oublier quand même que la France, en 1815, sort de près de plus de 20 ans de guerre incessante contre l'Europe. Guerre révolutionnaire, guerre de l'Empire.
Les guerres de l'Empire, je crois, ont fait plus d'un million et demi.
Oui, pour autant de morts que la guerre de 14. Donc, le pays est saigné à blanc et il veut la paix. Bon, donc les Bourbons, comme ils sont restaurés, il faut bien le dire, par les puissances coalisées contre la France, sont une garantie de la paix. Ça, c'est une chose. Et puis, surtout, on l'oublie aussi, ils vont donner à la France des institutions, alors on peut pas dire qu'elles soient démocratiques, mais qui sont des institutions libérales, c'est-à-dire une constitution, on appelle ça la charte, avec une chambre haute, une chambre basse, donc un pouvoir législatif, avec un pouvoir judiciaire, donc ils vont, et surtout avec la liberté de la presse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que les Français n'étaient plus habitués à connaître, puisque, soyons clairs, l'Empire, c'est la dictature. C'est la dictature. Et donc, et d'ailleurs en 1814, quand Napoléon revient, il établit une dictature encore plus dure que celle qui avant son premier exil à l'île d'Elbe. Donc, au début, ils sont bien perçus. Et puis très vite, cette famille ne réussit pas à renouer le lien avec les Français. Ces gens qui sont attachés à une étiquette extrêmement pesante, très éloignés du peuple. Et puis, il n'y a pas de reine. La seule femme, entre guillemets, de la famille, enfin, il y en a deux, c'est la duchesse d'Angoulême, c'est-à-dire la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui a été mariée au fils, à son cousin Germain, le duc d'Angoulême, le fils de Charles X. Alors elle, bah évidemment, c'est une polytraumatisée, hein, c'est-à-dire que c'est l'orpheline du temple. Elle a vu partir son père, sa mère, son frère, sa tante pour une mort. Voilà, elle l'a découvert en quittant. Elle a découvert, elle a su en 95 en quittant le temple qu'ils étaient tous morts. Vous imaginez le traumatisme. Alors, eh ben, elle est ni gaie ni très agréable. Bon, et en plus, elle est très laide. Donc bon, et puis elle supporte personne. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui aurait eu cette vie-là serait entouré d'une double cellule psychologique, une pour le matin, une pour le soir. Et puis sinon, après, vous avez une jeune fille, une jeune femme, c'est la duchesse de Berry, qui est mariée donc avec le frère cadet du duc d'Angoulême, qui a été assassinée hein, en 1820, alors, qui est un peu folle, mais qui est la seule qui fasse sourire. Mais quoi qu'il en soit, les Bourbons ne sont plus acceptés par le pays, et on craint surtout en permanence justement qu'ils veuillent revenir sur ce qu'ils ont accordé 15 ans plus tôt aux Français. Et c'est exactement ce que va faire Charles X, et c'est comme ça qu'il va tomber de son trône.
Alors, notamment, première grave erreur ou grave décision politique, mais qui vont contribuer à la chute de ce régime, ce sont les fameuses ordonnances du 25 juillet 1830.
Ouais, alors,
où là sont remis carrément en question un grand nombre de libertés, et notamment la liberté de la
presse. Et la liberté de la presse.
Surtout la liberté
et
de la presse.
Et surtout la liberté de la presse. Alors, ce que j'ai voulu montrer, c'est plutôt que de faire une introduction de 40 pages, etc., j'ai voulu prendre donc le lecteur et l'emmener dans la chambre du roi à Saint-Cloud le 25 juillet au matin. Parce qu'il va prendre une décision qu'il a mûrement réfléchie. Il fait face à une opposition de l'Assemblée nationale, qui ne porte pas ce nom, enfin on dit la chambre à l'époque, bon, qui est de plus en plus libérale, c'est-à-dire des idées anticléricales et d'ouverture. Et surtout qui voudrait gouverner comme en Angleterre, c'est-à-dire que ce soit la Chambre qui propose en réalité au souverain un Premier ministre. Mais Charles X, lui, il n'entend absolument pas ça comme ça. Il est roi de France, c'est lui qui décide du gouvernement et de la politique. Voilà. Donc là déjà, vous avez un conflit. Et il va tenter de le résoudre en faisant plusieurs choses. Un, il va dissoudre l'Assemblée. Bon, erreur. Il dissout l'Assemblée. Il va même modifier les règles d'élection. C'est-à-dire qu'on est dans un système où seuls les plus riches votent et les très riches peuvent être élus. Mais il va monter encore la barre d'un cran. C'est-à-dire qu'il va exclure de l'électorat la petite et moyenne bourgeoisie, ou disons la moyenne bourgeoisie. Bon, ça c'est une erreur capitale, puisqu'il se coupe en réalité des forces vives de la nation. Et ensuite, il prend une décision terrible, c'est que il met fin à la liberté de la presse, qui était le grand acquis de la Restauration. Et c'est ça qui va tout déclencher. Parce qu'en réalité, quand les journalistes parisiens vont apprendre ce qui les menace, eh bien, ils vont résister. Et c'est ça qui est absolument passionnant dans cette révolution, c'est que d'une certaine façon, elle est très moderne. C'est une révolution médiatique.
Wagon Livre est vraiment aujourd'hui une machine à remonter le temps, et c'est le cas également de votre roman, Camille Pascal, L'été des quatre rois aux éditions Plon. On revient avec vous sur cette période d'insurrection, ces journées des 27, 28 et 29 juillet 1830 qui ont vu d'abord Paris s'enflammer et ensuite mouvement insurrectionnel relayé en province. Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retrouvons en cette fin de matinée notre invité Camille Pascal, grand prix du roman de l'Académie française pour l'été des Quatre Rois aux éditions Plon, roman qui nous fait revivre en direct les dernières journées du règne de Charles X, 27, 28 et 29 juillet 1830. Il faut bien préciser, Camille Pascal, qu'à l'origine des journées insurrectionnelles parisiennes, il y a un rôle très important de la presse parisienne et des journalistes parisiens. Et notamment, il faut mentionner le rôle d'un homme qui est promis à une grande carrière politique, c'est Adolphe Thiers, qui est journaliste à la tête d'un quotidien qui s'appelle Le National, un quotidien financé par Talleyrand et par les banquiers Lafitte et Rothschild.
Ce journal, il a été créé l'année précédente avec des fonds qui ont été apportés par les grands financiers. Hein, on est quand même, vous voyez, la modernité. Hein, derrière un média, il y a de l'argent et derrière l'argent, il y a des grands capitalistes.
Les Lafitte et Rothschild et également Talleyrand.
Hein. Et Talleyrand. Alors Talleyrand, lui, il a trouvé les fonds, mais il n'en a pas trop mis de sa poche. Vous savez, Talleyrand, c'est plutôt du genre à prendre qu'à donner. Hein. Donc, Le National, il a pour, justement, il avait pour but de soutenir les libéraux à la Chambre et d'attaquer le gouvernement du roi et le roi. Et donc, Adolphe Thiers, qui est un homme d'une trentaine d'années, alors c'est un petit bonhomme, toujours énervé, c'est un parvenu pour le Talleyrand, par exemple, c'est un parvenu. C'est un Marseillais de famille équivoque, il n'a pas d'argent, il a un peu l'accent du Midi, mais il a une force de conception, il a écrit une magnifique histoire de la Révolution, et lui est convaincu que les Bourbons tomberont un jour et qu'il faudra les remplacer par une autre dynastie. Et il a cette vision politique et dès le lundi 26 juillet, il va convaincre ses collègues de signer une proclamation qui accuse ni plus ni moins le roi Charles X de coup d'État.
Et on peut dire que c'est une forme de coup d'État légal qu'a fait
X. Ah non, mais c'est totalement illégal ce que le roi a fait. Mais pour le roi fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, quand M. de Girardin, qui est son grand veneur, lui dit, parce que Charles X, comme tous les Bourbons, adore la chasse, donc ce qui est très important, le grand veneur, le grand veneur lui dit, parce que quand il a eu signé les ordonnances, Charles X s'est dit, mais tout ça est terminé, voilà, j'ai fait mon travail de roi. Donc maintenant que les autres se débrouillent, le gouvernement, l'armée, le ministre, tout ça, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai une chasse. Donc il part chasser avec son fils à Rambouillet, ça paraît complètement aberrant, c'est qu'il a pris des décisions qui peuvent avoir des conséquences inouï, et il part à la chasse. Bon. Et donc le grand veneur qui l'accompagne dans le carrosse de la cour lui dit, à un moment donné, le ton se monte et lui dit, mais sire, c'est un coup d'État. Et Charles X le regarde, en trouvant quand même que c'est un peu exagéré de s'adresser à lui de cette façon. Mais Charles X est toujours très aimable, toujours très... Il dit, oh monsieur le grand veneur, en gros, vous y allez un peu fort. Et il a cette formule, il dit, écoutez, mes ministres m'ont dit que si ça n'était pas légal, au moins c'était constitutionnel. Je trouve cette formule extraordinaire qui en dit long sur la capacité juridique du roi Charles X.
Alors, il y a encore une autre erreur. Alors, gravissime cette fois, c'est la fermeture. On prend la décision de fermer toutes les imprimeries parisiennes.
Oui.
Et alors ça met le feu aux poudres.
Oui, alors, c'est-à-dire qu'ils n'ont... D'abord, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un mouvement de foule. Parce que le préfet de police avait dit, vous savez, tout ça, ce sont des histoires de bourgeois. L'élection, le vote, la presse. Donc, les Parisiens, les prolétaires, ça leur est parfaitement égal. Il y a du pain à Paris, tant qu'il y a du pain. Bon, même si le prix du pain avait un peu augmenté. Donc, on n'a rien préparé. Rien n'a été préparé. Il y a très peu de troupes. Et surtout, le préfet de police va prendre une décision et le ministre de l'Intérieur vont prendre des décisions complètement délirantes. C'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter, puisqu'à coup d'État, il faut être dans le côté, au lieu d'arrêter les journalistes et tous ceux qui pourraient être des meneurs, bien, ils se contentent de bloquer toutes les imprimeries. Ce qui va avoir pour résultat de condamner au chômage technique tous les ouvriers du livre. Or, à cette époque, il faut savoir que tous les grands journaux sont réunis derrière le Palais Royal, entre la rue de Richelieu, dans le premier et le deuxième arrondissement. Donc, tous ces ouvriers, à une époque où vous êtes payés à la journée, c'est-à-dire que c'est en quittant votre atelier que vous touchez votre solde, ben, quand ils rentrent chez eux, il n'y a rien à manger. Donc, il fait très chaud. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de congé payé, donc tout le peuple est là. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est le 26 juillet que il fait une chaleur accablante. Il faut savoir que les populations les plus pauvres habitent à l'époque, non pas dans les lointaines banlieues, mais dans les derniers étages des immeubles, donc qui sont transformés en fournaises, et tout le monde descend dans la rue. Et dans la rue, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on parle. On discute, on s'échauffe. Et il y a le premier lance une pierre contre une lanterne. Puis après, c'est la vitrine qui prend. Et puis, c'est la révolution. Et on attaque Pagès, l'armurier de la rue de Richelieu. Et ça prend comme un feu.
Alors, je parle sous votre contrôle. Est-ce qu'on peut dire que les journées insurrectionnelles de 1830 sont nées du mouvement des journalistes, des organes de presse ?
Ah, c'est-à-dire que...
Pas directement alors.
Si, parce que à la fois, en fait, le peuple a hésité. Enfin, les ouvriers ont hésité. C'est-à-dire que dans les premières heures, ils auraient été prêts à se retourner contre ces journalistes qui, en fait, empêchaient le travail, en disant, tous ces bourgeois avec leurs idées saugrenues, ils nous mettent au chômage. Mais quand ils lisent la proclamation, quand ils voient que la responsabilité c'est le roi. Eh bien, ça se retourne contre le gouvernement. D'autant plus que le gouvernement est détesté. Polignac, le Premier ministre, est détesté. Les ministres sont ridiculisés parce qu'ils sont en plus incompétents. Donc, voilà. Et ça tourne comme ça. Et puis, il y a un premier mort. Parce que la garde, le problème, c'est que vous savez, la révolution, elle éclate au bout. Alors, je suis désolé, c'est très parisien comme révolution, même si ensuite ça va déborder en province. Mais l'armurier qui est dévalisé, il est à quelques mètres du palais du Louvre et des Tuileries. Et donc, il y a la garde royale. Et quand la garde royale sent que ça se fait, elle tire et il y a un mort. Et ce mort, il va être promené en procession par les émeutiers. Et la foule, à ce moment-là, va considérer que c'est de la légitime défense que d'attaquer les forces de l'ordre.
Alors, justement, pour revenir sur les choix que vous avez faits pour écrire ce gros roman historique, roman vrai, on reparlera, j'espère, du roman national. On en avait déjà parlé ensemble dans la cour du château du Clos de Vougeot. Mais ce roman vrai, donc, qui raconte les journées de juillet 1830, il y a un témoin. Alors, il y a toute une génération d'écrivains passifs par rapport à cette révolution qui ne va pas s'y engager, mais qui... est une génération témoin de ces événements, et notamment un jeune homme qui est en train de se débattre avec un manuscrit que son éditeur lui réclame parce qu'il le lui a déjà payé. C'est Henri Bell, c'est le jeune Stendhal. Et alors, c'est très amusant. J'aimerais bien que vous nous la disiez. Vous voulez nous lire ce passage, donc page 107 de votre roman.
Il en était réduit à devoir écrire la fin de son roman au petit matin et en corriger les épreuves la nuit pour le lendemain. Ses idées se brouillaient, il perdait le fil de son intrigue, de très belles pages dictées en songe lui échappaient au réveil, et la seule vue d'Elias imprimée déposée un peu partout dans sa chambre. Il ne savait même plus comment Madame de Rênal était vêtue lorsque Julien l'apercevait de dos à la messe, au point d'être contraint d'aller fouiller dans son manuscrit pour retrouver ces simples détails. Une deuxième détonation suivie d'un long cri de victoire lui vrilla de nouveau la cervelle. Ça en était trop et il lui paraissait qu'une conjuration universelle se liait contre lui. Furieux, il ouvrit sa fenêtre pour protester et se pencher au-dessus du petit garde-corps. Il vit l'émeute répandue sur toute la longueur de la rue de Richelieu, avec au loin un tumulte autour de la boutique de l'armurier Lepage qui semblait prise d'assaut. Intérieurement, il ricanait. Si tous ces pauvres gens croyaient renverser un trône avec des fusils de chasse à deux coups et des escopettes antiques vendues à prix d'or par cette maison connue de tous les amateurs de vieillerie, ils se trompaient bougrement. La bêtise du peuple le désespérait. Ce n'était pas demain la veille que l'on verrait la République régner.
En tout cas, Camille Pascal, votre roman L'été des quatre rois nous offre aussi la possibilité de saisir l'état d'esprit de cette jeune génération romantique qui assiste ébahie aux événements de 1830. Vous avez là parlé de Stendhal qui, effectivement, ne se sent pas concerné, étonnamment, par ces journées insurrectionnelles parisiennes. On marque un nouveau temps de pause dans Wagon Livre qui accueille aujourd'hui Camille Pascal, agrégé d'histoire, membre du Conseil d'État, romancier et essayiste, et surtout lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française pour L'été des quatre rois, un roman absolument délicieux, érudit, excellemment bien écrit et que l'on peut se procurer en librairie. Très bonne fin de matinée sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Dans ma vie, ma prise de coups, tu m'as donné l'envie de croire à l'amour. J'ai oublié ce qu'était l'ennui avec tes mots de velours, des promesses qui m'obsèdent nuit et jour. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur en tes deux mains pour qu'il batte avec le tien. Viens, l'air de rien. Que je te tiens grâce à ce petit coup de rein. Viens, l'air de rien, te perdre dans mes va-et-vient. Tu sais que je te tiens grâce à ce petit coup de rein. Mon cher amant, mon cher ami, je te veux dans mes bras toujours unis. Quand tu n'es pas là, mon sourire s'assombrit. Même si souvent tu me mens, amour, amant et ennemi, toujours contre toi, je m'oublie. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur en tes deux mains pour qu'il batte avec le tien. Viens, l'air de rien, te perdre dans mes va-et-vient. Tu sais que je te tiens grâce à ce petit coup de rein. Tu te caches derrière tes airs indifférents. Sous tes baisers et tes caresses, je sais qu'il y a tes sentiments. Tu m'aimes chaque jour plus profondément. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur dans tes deux mains pour qu'il batte avec le tien. Viens, l'air de rien, te perdre dans mes va-et-vient. Tu sais que je te tiens grâce à ce petit coup de rein. Viens, l'air de rien, te perdre dans mes va-et-vient. Tu sais que je te tiens grâce à ce petit coup de rein. Mon cher amour, mon cher amant, tu as peur de mes yeux, tu fais semblant. Sous tes baisers et tes caresses, je sais qu'il y a tes sentiments. Tu m'aimes chaque jour plus profondément. Viens, l'air de rien, te perdre dans mes va-et-vient. Tu sais que je te tiens grâce à ce petit coup de rein. Viens, l'air de rien, te perdre dans mes va-et-vient. Tu sais que je te tiens grâce à ce petit coup de rein.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Camille Pascal qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre pour son roman L'été des quatre rois qui a été récompensé par l'Académie française puisque ce roman historique a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française. Camille Pascal, en lisant votre ouvrage, il y avait des échos absolument surprenants entre ces journées insurrectionnelles parisiennes de juillet 1830 et ce que nous vivions plus ou moins en direct à la radio et à la télévision avec cette agitation, ce mouvement insurrectionnel des Gilets jaunes à Paris et un peu partout en France. Et ça, c'est vraiment incroyable, non ?
J'ai écrit ce livre comme un roman historique et sous mes yeux, il est devenu un roman d'anticipation. C'est-à-dire qu'il y a en effet d'incroyables similitudes entre ce qui s'est passé en 1830 et ce que nous avons vu et que nous voyons. Et ça m'a énormément frappé. Ça m'a énormément frappé. Et je vais vous dire que lorsque j'ai vu les images que tout le monde a en tête de la grille du jardin des Tuileries arrachée par les émeutiers, là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une sorte de contraction du temps. Et il y a, alors évidemment, comparaison n'est pas raison, il y a des choses qui sont semblables, d'autres qui le sont moins. Mais il est évident que ce livre, et j'en suis, alors vraiment, ce n'était pas mon intention, mais ce livre a pris une incroyable dimension d'actualité. Car au fond, celui qui veut comprendre les Gilets jaunes aujourd'hui, s'il lit mon livre, voit comment une insurrection commence. Et vous savez, c'est assez, comment dire, ils le verront en lisant ce livre. D'abord l'émeute, ensuite l'insurrection et enfin la révolution.
Et c'est amusant parce qu'on a beaucoup mis en avant le rôle d'Internet, des différents réseaux sociaux, et en 1830,
c'était, non mais ça, c'est de la blague. C'est de la blague. Cette idée que la révolution, que les Gilets jaunes seraient une révolution postmoderne, c'est une révolution parfaitement en ligne avec l'histoire de France. C'est une révolution antifiscale et c'est une révolte contre un pouvoir aveugle ou qui paraît aveugle. Vous savez, ce que nous appelons les réseaux sociaux, ça s'appelait la rumeur. Et à l'époque, il n'y a pas Twitter, mais la proclamation de Thiers, qu'est-ce qui se passe ? Mais elle est imprimée. Elle est imprimée sur des petites affiches et ce sont les livreurs de journaux qui n'ont plus de travail qui les collent sur les murs, sur les quelques réverbères, sur les portes. Et vous avez des attroupements, hein, qui lisent la, et puis qui ensuite la racontent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons totalement oublié ça. Mais ceux qui savent lire, hein, et la France à l'époque, en 1830, est un pays qui est éduqué, ont une qualité que nous n'avons plus, c'est qu'ils savent tout apprendre par cœur très vite. Donc ils apprennent par cœur et puis ils le racontent. Et ça va aussi vite que Twitter, hein.
Vous, en amorce à votre roman, il y a quatre reproductions de lettres, d'un roman de Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet en l'occurrence, et vous citez Armand Carrel à propos de la Révolution de 1830 dans un article écrit pour Le National et cité par Sébastien Charletti. Alors je lis cette citation et je reviens au Gilet jaune avec cela d'ailleurs. Nous y étions, nous l'avons vu, nous tous qui en parlons, qui en discutons aujourd'hui, mais soyons de bonne foi, nous n'y avons rien compris. Alors justement, en lisant cette citation, je me disais, j'ai beaucoup écouté France Info, BFM TV, CNews, France 2, TF1, et tous ces journalistes qui parlent des Gilets jaunes et qui, parfois, affirment des choses en sachant tout, hein, presque omniscients, les journalistes parisiens. Je me disais, et si finalement ces gens n'avaient rien compris au mouvement des Gilets jaunes ?
Mais personne n'a rien compris.
Mais il y a des gens qui ont des certitudes tout de même dans les médias. Hein.
Oui, il y a des gens qui ont des certitudes dans les médias, mais il n'empêche que leurs certitudes ne sont pas. Ils sont comme Charles X. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont des schémas de pensée, comme Charles X. Alors Charles X, il a un schéma totalement désuet. Mais peut-être que les commentateurs et les journalistes parisiens ont des schémas, eux aussi, totalement dépassés. Ils s'en rendront compte qu'une fois qu'ils auront été foutus dehors. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, mais c'est la vérité. Alors, je vais vous dire. Il y a dans cette phrase de Carrel, que j'ai trouvée très tard, hein, mais qui est. Il y a tout ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. Ce que j'ai voulu faire pour le lecteur, c'est bien sûr lui donner des repères. Chaque chapitre, c'est une date. À l'intérieur de chaque date, j'ai soigneusement indiqué le lieu où les choses se passaient pour qu'il y ait des repères visuels, pour ne pas perdre le lecteur dans ces pages qui peuvent l'impressionner. Mais il ne faut pas, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail de comme si j'avais été un petit reporter. Voilà, et j'ai essayé de démontrer. Mais ce que j'ai voulu montrer, et ce qui est incroyable, c'est que l'actualité nous en apporte la preuve, c'est que lorsque vous êtes dans un grand événement historique, personne n'y comprend rien. Voilà, personne n'y comprend rien, parce qu'évidemment, c'est quelque chose de nouveau et qui surprend par définition. Parce que si les révolutions, on pouvait les prévoir, elles n'auraient jamais lieu. Bon. Donc, c'est ça. Et dans cet événement de 1830, ce que j'ai voulu montrer, c'est que chacun fait avec ses schémas de pensée, avec son intelligence, qu'elle soit minable ou qu'elle soit immense. Et vous avez plusieurs positions. Vous avez ceux qui ne comprennent rien, ceux qui suivent, ceux qui essaient de s'en sortir et de coller à l'événement. Il y a quelques brillants esprits politiques qui, eux, ont compris. Et parmi ces esprits, vous avez Adolphe Thiers, qui lui a compris ce qui est en train de se passer. Il a compris que la France est à un moment charnière, qu'elle ne voudra plus jamais de l'ancien régime, mais qu'elle n'est pas encore prête pour une république. Et il va donc travailler à une sorte de monarchie constitutionnelle qui serait incarnée par le duc d'Orléans, qui est un cousin de Charles X, qui sera le futur Louis-Philippe. Vous avez Talleyrand, qui avec toute son expérience politique regarde ça en ne disant rien, mais en commençant à agiter ses pions, et notamment à l'international, pour rassurer les puissances étrangères en disant « le duc d'Orléans est là et ça va se calmer ». Et vous avez le duc d'Orléans, vous avez Louis-Philippe qui va tergiverser, hésiter, puis qui à un moment donné va donner le coup de pouce, enfin va prendre le risque d'accepter et de se mouiller en quelque sorte, et il en tirera le gros lot puisqu'il deviendra roi des Français. Donc ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'événement tel que on nous a dit, des générations d'historiens nous ont dit que ça n'existait pas. Bah si, l'événement, à un moment donné, il a une vie autonome. Il a une vie par lui-même. Et c'est ensuite à chaque individu, chaque humanité qui s'adapte à cet événement. Et là, on l'a canalisé, mais dans d'autres occasions, on ne l'a pas canalisé. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et ce que j'ai voulu, c'est que le lecteur, sans le perdre, hein, se rendre compte qu'en effet, tout est mouvant, tout peut changer, des occasions sont perdues, des coups de dés sont gagnés, et que c'est ainsi que, heure à heure, jour par jour, l'histoire se fait, et qu'elle se fait, au fond, sans être coordonnée. Hein. Il n'y a pas un grand architecte de l'événement, pas du tout. Ce sont ces multitudes de décisions, de consciences, de vie, de risques, de lâcheté, qui font l'événement historique. Et ce qui est incroyable, c'est que nous avons en miroir, en même temps que la lecture de ce livre, un événement sous nos yeux. Et ça, évidemment, inutile de vous dire que quand j'écris ce livre, je ne pouvais pas l'imaginer.
En tout cas, Camille Pascal, ce qui est intéressant, c'est de voir que le passé et le présent parfois se répondent. C'est un étrange jeu de miroir. Je rappelle le titre de votre roman historique, L'été des quatre rois, disponible aux éditions Plon. C'est Wagon Livre sur votre radio locale. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et l'on marque une nouvelle pause musicale.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Qui avait été conseiller d'un certain nombre de ministres sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et notamment plume de Nicolas Sarkozy durant les deux dernières années du quinquennat Nicolas Sarkozy, je voulais me risquer à une question politique vraisemblablement audacieuse. Mais c'est une interprétation.
Je sortirai mon joker si jamais.
Écoutez, on verra. Face à ces événements des Gilets jaunes, ayant beaucoup suivi avec beaucoup d'inquiétude ce qui s'est passé dans notre pays, je me disais, c'est peut-être l'occasion du retour de Nicolas Sarkozy, non pas comme homme providentiel, mais c'est peut-être lui dont la France a besoin.
Écoutez, je ne pourrais évidemment pas vous répondre sur cette question. Je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Sarkozy, même si j'ai gardé avec lui des liens extrêmement étroits, de fidélité, d'admiration et, je peux me permettre de dire, d'amitié. D'ailleurs, il m'a fait l'amitié de lire ce livre avant même qu'il paraisse et de m'en dire des choses extrêmement encourageantes, alors qu'un ancien président de la République peut avoir autre chose à faire que de lire les livres de son ancien collaborateur. Alors, je vais vous dire une chose. Ces événements, ils ont permis à des gens inconnus de devenir des hommes politiques. C'est le cas de Thiers, qui va passer de petit journaliste à futur ministre de Louis-Philippe. Ils ont permis à des hommes politiques de devenir de véritables hommes d'État. Et puis ils ont permis à des hommes d'État de devenir des hommes providentiels. Je n'en dirai pas davantage.
Je reviens à cette génération romantique d'écrivains, puisqu'on nous avons parlé de Stendhal, qui est effectivement coincé entre terminer la rédaction du Rouge et du Noir, enfin Le Rouge et le Noir, pardon, Et puis, il a aussi sa maîtresse italienne.
Qu'il n'arrive pas toujours à contenter. On va dire ça comme ça pour être gentil, mais c'est lui qui l'a raconté, pas moi.
Il n'était peut-être pas en panne d'écriture, mais il avait d'autres pannes,
voilà,
apparemment.
Ça, hein. Ça,
alors, il y a Vigny, Chateaubriand, Victor Hugo. Victor Hugo est en train d'écrire Notre-Dame de Paris au moment où Paris s'enflamme, en 1830.
C'est aussi l'aspect merveilleux de cette révolution, pourtant mal connue, c'est que c'est la grande révolution du romantisme. Il faut que votre auditeur comprenne que en juillet 1830, Stendhal termine Le Rouge et le Noir et Victor Hugo commence Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que les deux plus grands chefs-d'œuvre de la littérature romantique française s'écrivent en pleine révolution. Que Chateaubriand est là, qu'Alfred de Vigny est là, que Dumas est là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à part Chateaubriand, qui est lui de la génération précédente et qui est déjà une gloire, c'est le Jean d'Ormesson, si vous voulez, contemporain, et qui a en plus une carrière politique. Bon, eh bien, tous ces jeunes auteurs qui sont assez peu connus, ils commencent à avoir du succès. Stendhal est totalement inconnu. Dumas et Hugo commencent à avoir du succès au théâtre. Alors, il faut bien avoir en tête qu'en 1830, avoir du succès au théâtre, c'est comme aujourd'hui être un scénariste de télévision. C'est-à-dire quand vous avez du succès au théâtre, ça vous fait connaître comme si vous aviez du succès en écrivant une série, par exemple, et ça vous fait gagner de l'argent. Bon. Donc, plus que les livres. Et donc, Balzac n'est pas là, il est à Saché. Mérimée est en Espagne et Georges Sand à Nohant. Et ce qui m'a fasciné, c'est que là encore, aucun de ces grands esprits, qui sont quand même, là on a quand même le concentré des génies de la littérature française, hein, quand on a cité tous ces noms, n'a compris ce qui se passait. Nous avons lu le passage tout à l'heure, Stendhal n'y comprend rien. Stendhal est un libéral, c'est un libéral anticlérical et anti-bourbon.
Il aurait dû rejoindre les manifestants.
Il aurait dû descendre le premier. Il ferme sa fenêtre et il est extrêmement méprisant pour le peuple. Hugo, on ne sait pas. La seule chose que l'on sait, c'est que je suis convaincu, c'est que l'épisode du pillage de l'archevêché de Paris et de la cathédrale Notre-Dame, qui ne sera sauvé grâce à un bedeau, ça vous rappelle quelque chose ? Eh bien, évidemment, il va le retranscrire dans Notre-Dame de Paris. Et ce qu'aujourd'hui plus aucun lecteur d'Hugo ne conçoit, ne comprend, c'est que l'assaut des gueux à Notre-Dame, c'est pas le XIVe siècle que décrit Hugo, c'est 1830. Et le livre, il sort en 1831. Et je peux vous dire que le lecteur de 1831, lui, il comprend qu'Hugo, là, n'est pas romancier, mais journaliste. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Et tous ces auteurs auront ensuite toute leur vie une sorte de culpabilité à l'idée de n'avoir rien compris à ce qui se passait. Et donc, ils s'engageront politiquement.
Camille Pascal, de même que Maurice Thorez disait qu'il fallait savoir finir une grève, il faut aussi savoir terminer un entretien. Alors, je vais lire le dernier paragraphe de votre roman, dont je rappelle le titre, hein, « L'été des quatre rois, grand prix du roman de l'Académie française ». Donc, c'est le départ de Charles X et de la famille royale pour la Grande-Bretagne. Une heure plus tard, les deux voiliers et leur escorte prenaient la haute mer, emportant dans leur cale une famille et une histoire dont la France ne voulait plus. Et puis, dans l'épilogue, que vous écrivez à partir des choses vues de Victor.
Ah non, je l'emprunte entièrement
à Hugo. Vous l'empruntez en traitement.
Alors là, c'est entièrement du Hugo. Surtout, ne me faites pas me endosser le génie de Victor Hugo.
Et là, donc, c'est la fuite de Louis-Philippe, 1848. Et selon Hugo, le roi Louis-Philippe ne cessait jamais de dire entre ses dents « pire que Charles X, pire, 100 fois pire ».
Oui, c'est-à-dire que le voleur a aussi été volé.
Camille Pascal, merci.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radio Anne.